Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, c'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Donc, philanthropie autour d'un livre, hein, les bus de la honte. Donc, on va continuer. On a vu qui était ce monsieur Nachin. On a vu comment il fait donc une pression sur le personnel. Et donc, c'est une épuration, hein, tout simplement, en disant, ben voilà, hein, ceux qui ne sont pas contents, ben, on les envoie à la Gestapo, on les envoie à la police ou des choses dans ce genre-là. Et les autres, vous avez intérêt à vous taire. Alors maintenant, ce qu'il faudrait quand même qu'on voit, c'est que si on parle des bus de la honte, c'est que ces bus, ils ont eu quand même un rôle très important. Je veux dire, je pense que Paris-Drancy, le chemin était bien connu. Voilà. Parce que je crois qu'il y avait une équipe spéciale en plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle, là. J'ai perdu le nom.
C'est les équipes. Oui,
oui, c'est-à-dire que, en fait, ça.
L'équipe du Bourget.
L'équipe du Bourget. Ça, c'est-à-dire que les bus fonctionnaient de cette. D'abord, il y a. On allait chercher, il n'y avait pas que la rave du Valdiv, justement,
oui,
les
sûr.
Bus n'ont jamais cessé d'aller chercher, même encore en juillet 44, on voit que des bus sillonnent Paris et la région parisienne pour aller chercher des enfants, 4 enfants à Louveciennes, 5 enfants là, 10 personnes à tel endroit, c'est-à-dire que les bus sillonnent Paris de manière continuelle pour faire des rafles, petites, grandes, effectivement la rave du Valdiv est la plus grande, mais ça marche tout le temps. Ensuite, les bus vont... Il y a des centres de tri, il y a la caserne des Tourelles, parce que parfois, effectivement, on prend des Juifs, mais c'est pas des Juifs, on s'est trompé. Donc,
il y a des centres de triage. Il y a un exemple d'une personne qui parle, qui dit on a pris le bus, on est descendu. Et après, on a commencé à tout vérifier, on est retourné dans le bus.
On est retourné dans
le
bus.
Voilà, donc de toute façon, il y a des centres de triage avant. Puis après, enfin, souvent, on passe par, par la caserne des Tourelles, par exemple, ou d'autres centres, un cours, etc. Puis ensuite, les bus partent de Paris et vont à Drancy et s'arrêtent, porte de la Villette, prennent des policiers qui vont escorter les convois depuis Drancy au Bourget. Puis après, les bus, là, il y a deux périodes à Drancy, il y a la période jusqu'à juillet 43 où c'est entièrement sous autorité française et où les bus rentrent à l'intérieur du camp, amènent les gens, etc. Et il y a une équipe de déportés qui amène, qui escorte aussi
à
la gare du Bourget. Et là, il y a un témoignage absolument extraordinaire qu'on a lu de quelqu'un qui faisait partie de l'équipe du Bourget, qui s'appelle Georges Oran Koryanski, qui raconte comment ça se passe. Et donc, ils sont à la gare du Bourget. Il y a même des trains banlieusards qui passent en face. Ben voilà, tout ça est décrit de manière très construite. Et puis, il y a l'autre période qui est à partir de juillet 1943, sous autorité d'Aloïs Brunner, parce que les Allemands trouvent quand même que ça ne fonctionne pas assez bien.
Pas assez,
même si on a des... Voilà, ça fonctionne pas assez bien. Et les autobus vont aménager des portes à l'entrée du camp de Drancy et les bus à suffisamment grande pour que les bus rentrent et les bus vont être les seuls véhicules avec les seuls Français entre guillemets qui vont pénétrer dans le camp de Drancy. Les gendarmes français à partir de ce moment-là sont à l'extérieur du camp, escortent jusqu'à la gare de Bobigny.
Voilà, la gare a changé.
La gare a changé.
Parce qu'elle est plus tranquille.
Elle est plus tranquille que le Bourget, là, Loïs Brunner, à qui on doit la déportation des Juifs de Salonique. Enfin, c'est vraiment, je veux dire, c'est un expert. L'organisation de la déportation des Juifs à Berlin, à Vienne, etc. C'est le grand stratège de l'organisation de tout ça. Et les trains qui arrivent depuis le sud, depuis d'autres régions de France, soit arrivent à la gare d'Austerlitz ou d'autres gares de Paris. Et là, il y a des bus qui les attendent, les déportés, pour les amener à Drancy, soit arrivent à la gare du Bourget.
Ça demande une sacrée organisation quand même.
Et les,
une coordination.
Une coordination extraordinaire. Et il y a des rapports qui sont diligentés après chaque trajet en bus pour dire comment ça s'est passé. S'il y a eu du retard, il y a des motos qui, pour que ça aille plus vite dans les rues de Paris, il y a des motos, on dit quel trajet ils vont prendre, le boulevard Serrurier, le boulevard machin, etc. Avec des motos qui font traverser les bus pour qu'il n'y ait pas de gêne pour la circulation. Donc tout ça fonctionne de manière continuelle.
Et là, c'est vrai que Nachin a un rôle très important très important. La partie bus.
Oui. Il faut que ce soit coordonné avec la SNCF, il faut que ce soit coordonné avec la police.
Avec les autorités allemandes.
Il n'est pas question non plus de perdre du temps. Ils ne font quand même pas des choses très regardables. Ça se passe généralement au petit matin. Tout ça est très, très, très bien conçu.
Ça se passe au petit matin, pas toujours. Ça peut se passer souvent, aussi dans la journée, dans le transport des tourelles, etc. Il y a des choses qui se passent dans la journée. Surtout, ce qu'il y a aussi, c'est que les bus servent aussi à transporter des marchandises. Je crois que voilà, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi parler du camp Lévitant, Bassano, où étaient triés les objets. C'est qu'il y a un certain nombre d'objets qui arrivent de province. Les Juifs qui ont été déportés depuis Paris, raflés à Paris, ils ont laissé leur appartement à l'État. Mais un certain nombre de personnes qui venaient de Gurs, de d'autres camps, ils avaient toutes leurs affaires avec eux, et il y a des fouilles dans le camp de Drancy, les objets sont jetés par terre, c'est le commissariat aux questions juives qui s'occupe déjà de rassembler, de faire des fouilles, il y a des fouilles corporelles sur les femmes absolument terrifiantes, et un certain nombre de ces marchandises sont aussi transportées ensuite en bus, parce qu'il faut tout rentabiliser, on amène les gens, les bus doivent pas on peut repartir à vide.
Non, mais c'est-à-dire, quand on parle de tout rentabiliser, c'est une société.
C'est une société
avec des actionnaires qui demandent de l'argent. Qui ce soit en état de guerre ou pas en état de guerre, ils demandent de l'argent.
Ça ne change rien pour eux.
Alors là, justement, je voulais parler un peu de cette organisation. Jeudi 13 août 1942, à 14h, 400 femmes juives seront transférées par autobus de la caserne des Tourelles au camp de Drancy. Premièrement, rendues à la caserne des Tourelles à 14h. 14 autobus. Deuxièmement, rendu au même endroit à 13h30. Cadres et 30 gardiens de la 4e division. Le transfert s'effectuera en un seul convoi qui sera escorté comme suit. La première moto pistera en tête sur l'itinéraire. Boulevard Mortier, boulevard Serrurier, porte de Pantin, route des Petits Ponts, camp de Drancy. Les arrondissements et circonscriptions intéressés placeront un petit service au carrefour et croisement de manière à faciliter le passage du convoi sans que celui-ci ait à ralentir. Préfecture de police, 11 juillet 42. Alors bien sûr, après, il y a le petit bilan aussi. Transport du camp des Tourelles à Drancy, effectué le 13 août 42. 40 femmes politiques à Incourt, 10 femmes amies des Juifs à Drancy, 252 Juifs à Drancy, 71 hommes juifs à Drancy. Et le cas échéant, avec certaines modifications, etc. Donc là, on voit que le rôle de cette société est quand même très important,
très
puisque
important.
C'est la logistique.
Voilà. Et ce que je voudrais compléter de ça, on a trouvé ces documents-là aux archives de la préfecture de police. Parce que dans les archives de la RATP, tout ce qui concerne le transport des Juifs a disparu.
Un blanc.
Là, c'est vraiment en fouillant dans les archives de la préfecture de police et d'ailleurs dans des dossiers qui sont classifiés autrement qu'on a découvert ces documents-là, qui sont extrêmement explicites, c'est ce que tu dis, sur ce fonctionnement qui est, je dirais pas parfait, mais enfin qui est rodé.
Une véritable organisation, on connaît l'organisation du travail aux États-Unis dans les usines et tout. Là, on sent que c'est la même chose, quoi.
C'est ça, ça a été. Il y a eu des réunions entre les dirigeants de la STCRP, les Allemands, la préfecture.
Puis après, le retour des déportés se fait aussi avec la même organisation, c'est-à-dire c'est les mêmes autobus qui transportaient les personnes vers les Juifs à travers Paris. C'est aussi Lucien Nachin qui va être chargé du retour des déportés et qui va organiser, il y a des témoignages assez extraordinaires, depuis la gare du Nord,
c'est le même travail.
Pour aller l'hôtel Lutetia, c'est le même travail.
Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, en effet, il a fait toute la série. Alors justement, on va arriver un peu sur, sur la suite. Il y a quand même un retour de la guerre pendant quelques années, des groupes qui justement étudient les comportements. Et lui, il lui arrive rien ?
Il lui arrive rien. Il lui arrive ça, rien.
Ça, on ne sait pas.
On n'a pas trouvé trace d'un jugement ou d'une inquiétude judiciaire, en tout
oui,
cas.
Oui, parce qu'il y en a d'autres qui ont eu des inquiétudes.
Alors, des gens au-dessus de lui, en tout cas le grand patron André Mariage, le patron du métro aussi, ont été...
Non, en alors Ampin, il est mort avant, il est mort
Ampin
à Madrid.
Ampin était parti dès 43, il avait compris.
Ah, il a été voir son copain Franco.
Oui, il est allé voir Franco. Il était trop menacé par
et
la
résistance. Et il est mort en 46, où il commençait déjà à être harcelé. Enfin, ça, c'est les termes de la famille Ampin. Il commençait à être harcelé. Et bon, il est mort en 46, donc tout ça est passé en perte et profit. Il n'y a pas eu. Mais alors lui, on a évidemment une grande piste et une deuxième piste. La première grande piste, évidemment, son amitié militaire virile et
avec
Charles de Gaulle.
Cette espèce de réseau entre les deux guerres. Quoi.
Oui, voilà. On a trouvé aussi aux renseignements généraux c'est là où on a trouvé sur son livre qui avait été interdit, on a trouvé également une lettre de recommandation d'un certain général Mater qui se dit être son ami, et ce général Mater était chargé de la commission d'épuration des militaires à la Libération. Et ce
bien.
Général Mater, quand on a été voir la biographie du général Mater et les commentaires qui sont dits sur le général Mater, il est dit qu'il a toujours veillé à ce que...
À rétablir les choses comme il se doit.
Comme il se doit et à ne pas...
C'est bien, comme ça on ne sait pas ce que ça veut dire, on est tranquille.
Voilà, enfin, quelque chose qui montre que c'est quelqu'un qui a finalement protégé...
Qui a étouffé.
Donc les recommandations qu'on a positif pour Lucien Nachin dans le document des renseignements généraux vient du général Mater. Donc on se pose des questions. Surtout que cette feuille que nous avons trouvée qui a échappé au grand nettoyage de l'après-guerre ou d'après, on ne sait pas exactement quand tout ça a été nettoyé, montre qu'il est quand même sur une liste de personnes à épurer. Et puis il a été aussi chargé de dénoncer ceux qui avaient collaboré. On a trouvé la liste, donc toujours à la préfecture de police, de gens qui, on a dit, voilà, tel employé avait joué dans un orchestre des Allemands, d'autres...
Avait conduit un...
D'autres a facilité quand même le contact avec les Allemands. D'autres... Alors, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un portrait de toute l'œuvre de Lucien Nachin. Sauf que lui est là...
On met un élément sur chacun, mais
on
va être
totalement schizophrène. Dans la schizophrénie, c'est pas grave.
Des employés qui sont mis à la retraite sans compensation, etc. Et lui, il n'avait pas l'âge de la retraite aussi, quand il a été mis à la retraite.
Et pas l'ancienneté
suffisante. Mmh. Il est mis à la retraite et avec une compensation plein pot.
Oui, il avait des amitiés.
Voilà.
Justement, maintenant qu'on a vu un peu ce portrait et le rôle des autobus et le rôle de Nachin, bien entendu. Comment ça a été vécu au niveau familial, puisque justement c'est le croisement de cette histoire familiale et cette histoire...
Je dirais qu'il y a, voilà, comme dans l'histoire, il y a deux camps. Je me suis aperçu qu'il y avait deux camps. Pour moi et pour Malkin, en tout cas, pour moi, ça a été une découverte. Une macabre découverte, mais une découverte. Donc, ça a été l'exemple même de il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Donc là, on a eu l'image même de... Faut, pour faire court, on est quand même dans un milieu d'intellectuels, mais de toute ma famille, ce sont des gens très informés, des gens qui sont au courant de tout ça. Eh bien, ça a été une fin de non-recevoir.
Et pire que ça, si je peux me permettre, Jean-Marie, c'est pour ça qu'on a appelé ce livre « Les bus de la honte », c'est que la mère de Jean-Marie, donc la fille de Lucien Nachin, qui était un personnage assez original, une femme finalement qui était très libre intérieurement et qui avait
qui écrivait,
des amants,
d'ailleurs.
Qui écrivait, etc. Oui. Eh bien, quand on a parlé de ça, on nous a dit, ah, mais c'est on a dit à Jean-Marie, ta mère était folle. Ta mère disait n'importe quoi, puisqu'elle parlait effectivement de pierres précieuses.
Pas des collections. Non.
Oui, parce que c'est vrai qu'elle a la fin du livre se pose d'autres questions, bien évidemment.
Sur l'enrichissement personnel.
Sur l'enrichissement, parce qu'on a parlé de Lévitant tout à l'heure. On sait très bien que les premiers à profiter de ce qui se passait, bah, c'était quand même les gens qui étaient bien placés, qu'ils soient allemands ou pas allemands, dans l'administration des militaires, qui passaient prendre
et
acheter le produit.
Et pire que ça, c'est-à-dire que comme la mère, comme Jean-Marie, on le dit pas, on le voit pas à la radio, mais Jean-Marie est un enfant adultérin, et donc on lui a renvoyé. T'as déjà de la chance d'avoir une famille, tu vas pas dire...
Tu ferais bien de te taire quand même, voilà. N'est-ce pas.
Et puis moi, ça a été, puisque je suis juive, ah oui, ça doit être très difficile pour vous, mais enfin, sans pouvoir dire le mot juif.
Tu vas quand même à la messe.
Voilà. Quand même à la messe.
Ça, c'est une allusion au livre.
C'est une allusion au livre.
C'est une allusion à la messe. On n'a pas d'hébraïsant dans la famille. Enfin, des espèces de mots comme ça qu'on me lançait à la figure.
Incroyable.
Qui étaient complètement...
Oui, ce qui veut dire qu'il y avait une connaissance.
Il y avait une connaissance.
On serait tombé des nuits tout, mais on n'aurait pas repris un espèce de discours antisémite ou espèce de discours de culpabilité du fait que toi, ça va, le pied de la famille, on ne sait pas, ou des trucs dans le genre. Il y a toutes ces histoires-là.
On ne sait pas qui est ton père biologique, alors qu'il a été reconnu par son père, mais on ne sait pas qui est son père, parce que Jean-Marie est métisse.
Oui,
ça ne se voit pas à la radio, mais donc, il est né dans une famille blanche, bourgeoise, bien jeune, et il est métisse. Et donc, on lui dit, écoute,
c'est la faute.
Hein. Qu'est-ce que c'est que le vilain petit canard qui commence à se poser des questions
sur
le joli décor dont il profite. Alors, ça ne va pas.
Que ça pose des questions. Et donc, ça pose des questions que la famille savait ou ne savait pas. Ça pose des questions de l'origine des biens. Parce que, moi, je pense au miroir, parce que tu en parles beaucoup, une espèce de miroir de Louis XVI ou quelque chose dans le genre.
Voilà, il y a des objets comme ça, et dont un immense miroir où je me demandais, totalement disproportionné par rapport à l'endroit où on habitait, où ma mère m'avait dit « Ah, mais mon père a hérité de la duchesse de Luynes.
Oui. »
Un délire. Mais et quand on a fait cette recherche, je me suis rendu compte, et notamment ce que tu disais, Lévitant, etc., tous ces décors, toutes ces pièces dégoulinées d'objets, dégoulinées de meubles, de choses... que même si on a trouvé le salaire de Lucien Nachin à la STCRP, il gagnait bien sa vie, mais enfin, il n'y avait rien de... Voilà.
Il avait une famille des gosses, quand même.
Il avait une famille des gosses. Il venait d'une famille qui n'avait pas d'argent. Et que, à son décès et au décès de ma grand-mère, la succession a été très importante.
Donc,
ça pose des questions.
Et puis, quand même, excuse-moi, le colonel, la famille du colonel Meillet a confié à Lucien Nachin, parce qu'il n'était pas juif, des livres, la correspondance entre le colonel Meyer et De Gaulle, etc., à Lucien Nachin. Et c'est bien, on a découvert, n'ont jamais été restitués après la guerre.
Et vous êtes vraiment dans une famille de crapules. Hein.
Et quand on a découvert ça, puisqu'on a rencontré l'arrière-petite-fille du colonel Meyer et de Paul Grunebaum-Balin, que l'on cite dans le livre, qui s'appelle Brigitte Bergmann. Donc on a été en parler à la famille de Jean-Marie. On a dit, mais quand même, c'est... Et là-dessus, comme dans une pièce de boulevard, un des cousins de Jean-Marie dit « Ah oui, on a mis la bibliothèque du colonel Meyer dans le jardin, elle prenait tellement de place. » Donc
ils sont dans la droite ligne de la négation.
Et je dis « Mais vous avez repris contact, c'est pas possible.
Ils restent dans leur logique.
Hein. Pourquoi on reprendrait contact? Il n'y a aucune raison. D'ailleurs, qui c'est cette Brigitte Bergman? On a essayé vraiment
de mettre en rapport.
Le téléphone ne marche pas.
Et puis, il n'y a pas de réseau.
Et puis, une des excuses formidables qui a été donnée, c'est que depuis la marche républicaine après Charlie Hebdo, ils n'avaient plus de voix parce qu'ils sont de gauche. Hein. Il faut le savoir. Ils sont de gauche et donc il y a des choses terribles dans leur famille. On dit avec ironie dans le livre, mais il y a une des cousines de Jean-Marie, quand on lui raconte les années, elle dit « Oh, je suis tellement déchirée, je suis complètement déchirée parce que vous dites, mais on a tellement de problèmes dans la famille de mon mari parce que depuis l'élection de François Hollande, vous comprenez, le père est de droite et nous on est de gauche. » Et alors là, on tombe des nues et on se dit mais c'est pas possible.
On parle pas de la gauche, on parle de l'autre droite.
C'est quand même de ce dont on parle.
Oui, donc en vérité, la fin du livre et puis le livre lui-même donne plein de pistes de réflexion et de travail. Vous allez peut-être pas continuer ou vous continuez parce que bon, il y a la vie à côté hein, quand même.
Il y a la vie qui continue.
Il y avait la vie pendant aussi. Hein,
parce que c'est vrai que ça peut devenir quelque chose d'assez lourd et traumatisant quand même. C'est quand même.
C'est très traumatisant.
Il y a des suites qu'on pourrait découvrir. Parce que c'est vrai que c'est fait sous forme d'enquête. C'est très agréable à lire comme enquête, hormis le sujet, quoi.
La thématique est quand même un peu hard.
Hein.
Oui, c'est très hard. Je crois qu'on le dit, on souhaiterait que des chercheurs, des jeunes chercheurs, se plongent dans d'autres archives, parce que les archives ne sont toujours pas ouvertes. Toutes les archives ne sont pas ouvertes. Les archives, on pourrait raconter la manière dont on nous a bloqué certains accès. Ah oui. Toujours, hein, aujourd'hui, on a beau nous dire que tout va bien, pas du tout. Donc, je pense qu'il y aurait quand même beaucoup d'autres choses à trouver qui déboucheraient. C'est une de nos grandes obsessions. Ça reste quand même la capitulation de juin 40.
L'armistice, c'est pas pareil qu'une capitulation. Voilà. Parce que l'armistice, ça veut dire on fait la paix. C'est-à-dire qu'on nous, justement, on joue toujours sur les mots capitulation, armistice, réquisition, truc. Armistice, c'est faire la paix. Oui. Et souvent, justement, on dit capitulation, c'est-à-dire qu'on a. On est occupé. Non, c'est un armistice, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de avancer ensemble pour une Europe nouvelle.
On efface et on avance.
Pour une Europe nouvelle.
C'est la création de l'Europe après. Hein.
C'est la création de l'Europe.
Et nous, voilà, en tout cas, la piste de réflexion qu'on a, on a d'autres choses dans nos. Mais en tout cas, ce qu'on laisse en suspens plutôt, c'est cette espèce de valorisation du devoir de mémoire. C'est vraiment une question à quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le même temps de cette espèce d'apologie du devoir de mémoire et en même temps où on ne peut pas tout dire. On nous dit, vous avez. Là aussi, les chemins sont très balisés sur quel type de mémoire, quelle mémoire. Et c'est vrai que là aussi, il y a des choses à creuser. Cette fascination, même si c'est légitime par rapport aux enfants, c'est tout à fait bien. Mais enfin, les lieux de mémoire qui sont choisis, les transmis. Pourquoi qu'est-ce que ça cache, mais qu'est-ce que ça empêche de dire.
Oui, c'est ça, la focalisation ordonnée. Alors, quand je dis ordonnée, c'est en termes d'ordre.
À Drancy, il y a un wagon. Il n'y a jamais eu de wagon à Drancy. Il n'y a eu que des autobus. Il n'y a pas d'autobus à Drancy. Donc déjà, le lieu de mémoire de Drancy, qui est un lieu chargé, où il y a des commémorations chaque année.
Il y a les bâtiments encore.
Il y a des gens qui habitent et tout ça. Il y a un wagon. Donc ça veut dire que déjà, même la manière dont on fabrique des lieux de mémoire est déjà totalement biaisée et raconte une histoire qui n'est pas la vraie histoire. Parce que les wagons, c'est ceux qui partent en Allemagne. Donc ça devient de nouveau l'Allemagne, c'est pas la France.
Bah écoutez, je vous remercie d'être venu.
Merci.
Je rappelle le livre, hein, Jean-Marie Dubois, Malkia Markovic, Les bus de la honte aux éditions Talendier. Merci et à bientôt.
À bientôt.